Le colloque reprend et donc nous allons parler de Périgueux pendant la Commune avec Catherine Tostivin et Francis Pion. Voilà, donc je leur laisse la parole.
On va préciser deux, trois éléments. C'est que c'est un texte qui a été élaboré par Catherine Tostivin et Jacques Noni. Et ces deux amis ne peuvent pas être présents, donc je vais lire leur texte. Et ensuite, il y a Claire Ozias qui va nous présenter l'expérience de la commune de Narbonne. Voilà, donc ça sera sur ce début d'après-midi, c'est ce que nous allons présenter. Alors, donc, Périgueux. Pourquoi Périgueux ? Bien, d'abord parce qu'on a voulu montrer que la commune n'était pas que sur Paris, et on parlera de Marseille, on parlera de Lyon ou de Grenoble, mais de voir que dans des petites villes à l'époque, au XIXe siècle, Périgueux n'est pas une grande commune, j'imagine que Narbonne, il n'y a pas 300 000 habitants, et donc c'est intéressant de voir que il y a des poches ouvrières, et là en l'espèce à Périgueux, il s'agissait des ateliers du PO. Alors le PO, c'était tout simplement le Paris-Orléans, qui ensuite, évidemment, allait se développer dans tout le sud-ouest de la France. Alors là, eh bien, il y a dans ces ateliers des ouvriers, il y a des prolétaires qui sont installés, et les cheminots seront, pendant la guerre de 70 et au moment de la commune, de la période de la Commune de Paris, seront donc en première ligne. Et les archives, comme disent nos amis, auteurs du texte, les archives révèlent que pendant la guerre de 70, au cours d'une réunion de l'AIT, de l'International, des travailleurs de la ligne du Sud-Ouest, un cheminot des ateliers du Toulon, un secteur donc du Toulon, dénonce, après la reddition de Metz, la trahison de l'empereur Louis-Napoléon Bonaparte, maintenu au pouvoir, je vous le rappelle, après le coup d'État de 1851 et de Bazaine. Et donc, il proteste contre ces personnes-là. Et un autre demande une collecte pour soutenir les soldats du 22e régiment de marche qui était à l'époque sur la Loire. Nous sommes en 1870, septembre. Et après, on propose, à partir du 4 septembre, de soutenir le Paris assiégé, par l'armée prussienne. Donc, la province réagit, et ça, c'est toujours l'éternelle question de cette séparation entre le Paris révolutionnaire ou les villes révolutionnaires et le monde rural ou le monde provincial. Il ne faut pas croire non plus qu'il n'y avait que Paris et que le reste était uniquement composé de monarchistes. Et donc, dès le 18 mars 1871, en province, les réseaux militants s'empressent de diffuser les nouvelles. Et le 11 avril, les ouvriers des ateliers du PO se mettent en grève, en solidarité avec les communards, et ils démontent des canons qui étaient sur pivot, installés sur des wagons blindés construits dans les ateliers du Toulon et qui devaient initialement servir à la guerre franco-prussienne. Et en réalité, la direction avait réorienté en disant « livrons ces armes à l'armée versaillaise ». Et l'objectif, c'est que, évidemment, on utilise ces canons contre les Parisiens. Et puis, les ouvriers déjà démontent ces canons. Ils renversent les wagons dans des fosses qui étaient destinées aux travaux sur les locomotives à vapeur. Et ils renversent aussi les cendres des foyers des chaudières. Bref, c'est une forme de sabotage qu'on a connue déjà dans des périodes semi-insurrectionnelles. Et il précise donc que ces armes, les ouvriers disent que ces armes qui sont construites contre l'armée de Bismarck ne peuvent pas servir contre des compatriotes. Et sur la notion de patriote, il faut bien se rappeler que cette notion de patriote, c'est une valeur fondamentalement de gauche à cette époque. Ça peut paraître réactionnaire de parler de patriote aujourd'hui, ça peut paraître réactionnaire de chanter la Marseillaise, mais à l'époque, c'était considéré comme étant un acte d'opposition par rapport à l'Empire et par rapport à la réaction. On peut peut-être souligner que Paul Piat, qui était membre de la Commune et qui était délégué à la surveillance et au contrôle des chemins de fer par la Commune, avait fait réquisitionner les bâtiments parisiens de la compagnie du PO le même 11 avril. Donc le 11 avril, en province, on commence à se mobiliser, enfin ailleurs aussi, mais en province, on commence à se mobiliser, et puis sur Paris, il en sera de même sur cette compagnie. Au même moment, Thiers dénonce les communistes Limougeaux, communistes entre guillemets, Limougeaux, et la répression sera impitoyable à l'égard de ces de l'insurrection sur Limoges, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment. Ensuite, comment réagit la presse locale? L'écho de la Dordogne souligne que le préfet de Dordogne se rend aux ateliers du PO et qu'il est contraint d'en partir, que les ouvriers le rejettent, que l'agitation est intense dans tout le quartier du Toulon. Vers 15 heures, une manifestation composée d'ouvriers et d'habitants, une centaine d'ouvriers selon la presse, beaucoup plus pour les gens qui y participaient, se dirige vers la préfecture. Un tambour de la 13e compagnie de la garde nationale précède le cortège et sur un drapeau blanc, sont inscrits les phrases, selon les journalistes, « Vive la République, à bas la guerre civile » et selon les autres témoins, « Vive la Commune, vive Paris ». Arrivés devant la préfecture, les manifestants ne sont pas reçus par le préfet. Ils se rendent alors devant la caserne du 1er bataillon de chasseurs à pied, où il est fait une déclaration publique appelant à la République, au respect des droits de l'homme, des libertés. La porte de la caserne est ouverte, mais simplement pour laisser entrer, un général et des officiers. La manifestation gronde, ça commence à bouillonner. Le tambour bat de nouveau le rappel, et c'est impressionnant d'entendre un tambour qui bat le rappel dans les rues. Le procureur de la République vient d'arriver. Il est frappé par des manifestants. Un membre du conseil municipal est même insulté, d'après la presse locale. La foule grossit. Et parmi cette foule, il y a les femmes, les enfants. Ils se répartissent en plusieurs groupes de manière à ne pas laisser partir les wagons blindés pour Versailles. Dans la soirée, de nombreuses personnes sont présentes sur les boulevards devant la préfecture. La presse, pour faire croire que tout va bien et que l'État maîtrise, considère que ce sont des curieux. En fait, ce sont des gens qui veulent s'opposer et manifester leur soutien à la Commune de Paris. À partir de 21h, une manifestation issue du quartier le plus pauvre de la ville rejoint les hommes en armes. Les manifestants se dirigent vers les ateliers. Et là, les coups de feu sont tirés. Souvent, vous voyez, en soirée, la lumière baisse et c'est le moment où on peut plus facilement tirer sur la foule. Cette nouvelle manifestation rejoint les ouvriers qui sont en possession d'armes parce qu'ils sont gardes nationaux. Et dès le lendemain, tout le quartier, les voies ferrées sont occupées par les militaires. C'est-à-dire que les militaires ont profité de la nuit pour envahir le quartier, pour bloquer les voies ferrées, pour reprendre la main. 2000 militaires prennent position. Et face à ce déploiement, sous la menace d'un canon, de mitrailleuses, finalement, les 24 wagons sont remis sur les rails et les canons sont remontés. Ils partent sur Versailles. Entre-temps, la troupe s'est étoffée de 1000 soldats supplémentaires. On est donc à 3000 personnes, 3000 soldats armés. C'est énorme, 3000 soldats armés à cette époque pour une petite ville comme Périgueux. J'insiste sur la proportion entre la force et puis l'importance de la population de la ville. Bref, la ville est occupée. Et puis, Eh bien, les canons et les wagons partent. Simplement, il faut souligner que, en l'espace de très peu de temps, ils arrivent à Angoulême le 18 avril. C'est-à-dire qu'ils ont fait 90 km en à peine 2 jours. C'est quand même assez peu de vous à moi, même si nous sommes au 19e siècle. Et la répression ne tarde pas. Les révocations de cheminots interviennent. 14 meneurs, selon la terminologie de l'époque, sont poursuivis. 10 d'entre eux sont condamnés. Bon. Et lors de la grande grève des cheminots de 1920, qui se déroulera aussi à Périgueux, il y aura aussi des révocations. Eh bien, les événements locaux liés à la commune sont très souvent évoqués. Et ce qu'on l'on rappelle, c'est que, certes, ça n'a pas duré très longtemps. Certes, l'armée a pu écraser la mobilisation ouvrière, mais il n'empêche qu'on considère que ces canons sont arrivés bien trop tard et qu'ils n'ont pas pu servir pour massacrer les communards. Entre nous, il est vrai que la force militaire des forces versaillaises était telle en hommes et en matériel face aux insurgés que ce n'est pas ces engins de mort qui auraient vraiment fait peser sur le poids des armes. Je veux dire, il y en avait suffisamment, malheureusement, pour massacrer le peuple parisien. Mais il n'empêche que ce retard a conduit à montrer une mobilisation et souligner qu'il n'y avait pas qu'à Paris que les ouvriers, les prolétaires, se mobilisaient pour défendre une autre société. Donc ça, c'est Périgueux. Et à Narbonne.
Alors à Narbonne, c'est une petite ville. Pourquoi parler de cette petite ville plutôt que d'autres? Je vais tenter de m'en expliquer précisément. Je voudrais juste dire pour commencer que c'est l'honneur à mes yeux des organisateurs de ce colloque que d'avoir mis l'accent et donné la parole aux communes en dehors de Paris. Car dans les commémorations précédentes et notamment dans le centenaire, il n'a pas été question des communes en dehors de Paris. On en était encore à des représentations centralistes. C'est l'honneur des anarchistes de commémorer le fédéralisme du mouvement communaliste. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Et vous allez en avoir des précisions avec les innombrables villes de France qui sont aujourd'hui connues pour s'être manifestées aux côtés de la Commune de Paris. Or, sachez que si le métron de la Commune qui a été publiée cette année, a choisi de ne pas parler des communes de province, c'est parce que nous ne disposons pas à l'heure actuelle d'études d'historiens professionnels ou militants suffisamment précises et fiables pour nous donner un bon panorama de la question. Donc sachez que ce dont je vais vous parler, ce sont des petits symptômes, en quelque sorte, d'une histoire qui reste à faire. Alors, bien sûr, la Commune de Paris n'est pas seule au monde. Bien sûr, il y a des grandes villes dans tout le pays qui ont des mouvements ouvriers insurrectionnels, 1830, ne parlons pas de la Révolution française, 1830, 1848, 1851, qui ont fomenté une conscience de classe dans les classes laborieuses et qui ont donné une tradition de mouvements ouvriers qui ont bien sûr été le terreau des interventions en faveur de la Commune de Paris. Partout en France, tout comme à Paris. Ça, c'est une banalité à rappeler. L'autre généralité à rappeler pour toutes les villes, c'est que ce que l'on appelle le mouvement républicain, c'est-à-dire ce qui naît le 4 septembre et qui se poursuit jusqu'au 18 mars, ce mouvement républicain, il est traversé de très nombreuses opinions qui sont souvent antagonistes. Il y a des républicains qui sont pro-tiers, pro-monarchistes, et il y a des républicains qui sont pro Commune de Paris, pro-insurrectionnelle. Et c'est toute cette palette, c'est tout cet éventail de pensées sur la République qui s'affrontent pendant les 6 mois qui précèdent la proclamation de la Commune de Paris le 18 mars, qui font que l'on arrive à ces insurrections peu ou prou, petites, avortées ou réussies, partout dans le pays. C'est-à-dire que ce débat à l'intérieur de la pensée républicaine, il est général dans tout le pays. Bon, alors, Narbonne. Il se trouve qu'à Narbonne, il y a eu une petite commune qui a duré 7 jours. C'est supérieur à d'autres communes en dehors de la France. Nous avons eu une historienne il y a 50 ans qui était pionnière sur la question. C'était Jeanne Gaillard qui avait publié un livre dont nous disposions autrefois qui s'appelait « Commune de Paris, commune de province ». Ensuite, au centenaire de la commune, il y a eu Maurice Moissonnier, un historien communiste, qui a, pour le Métron, fait un résumé synthétique sur ce que l'on savait sur les communes dites de province. Mais maintenant, évidemment, les connaissances se sont terriblement élargies. Et pour ce qui est de Narbonne, nous disposons d'une étude que vous pouvez tous lire parce qu'elle est en ligne, de Marc César, aux presses universitaires de je sais pas quoi, Perpignan, un truc comme ça. Qui est épuisé, mais que vous pouvez donc tous lire. Alors, grâce à qui, je vais pouvoir vous donner quelques petites précisions. Alors, il se trouve que dans ce mouvement républicain des 6 mois qui ont précédé la proclamation de la Commune, les villes du sud et de l'ouest s'étaient liguées entre elles pour demander plus de décentralisation. Nous avions la Ligue du sud-ouest, dans laquelle était Narbonne, était Toulouse, était Perpignan, était un très grand nombre de villes, toutes républicaines. Et puis il y avait la Ligue du Midi qui incluait Marseille, dont je ne vous parlerai pas puisque notre camarade doit nous en parler. Donc, Narbonne faisait partie de cette Ligue du sud-ouest qui plaidait pour un républicanisme, disons, avancé. Mais il se trouve qu'au moment de la proclamation de la Commune de Paris, cette Ligue du Sud-Ouest a cessé ses activités pour cause de dissensions internes. Bon, donc, la garde nationale à Narbonne est particulièrement importante. Elle est importante, mais elle n'est pas armée. Alors ça, c'est un des enjeux des communes. La garde nationale peut-elle, oui ou non, être armée? Et dans la plupart des cas, elle n'est pas armée, et quelquefois, elle réussit à s'armer en cours de route, au cours du mouvement. Les républicains les plus avancés demandent l'armement de la garde nationale. Il existait deux clubs à Narbonne qui animaient la politique et la vie politique et sociale avec des meetings, des réunions. Un club qui s'appelait le club Lamourguier et qui s'est transformé en s'appelant le club de la Révolution, référence directe à la Révolution française. Ce dernier, c'est-à-dire le club de la Révolution, se considère comme révolutionnaire et rompt avec le gouvernement provisoire. Donc là, on a l'amorce d'une commune, c'est-à-dire que le gouvernement provisoire, comme vous savez, c'est Gambetta. Ce club est capable de réunir, rien qu'à Narbonne, jusqu'à 2000 personnes pour une réunion. Donc vous voyez, 2000 personnes, c'est vraiment beaucoup pour une petite ville. 2000 personnes à un meeting politique, c'est beaucoup. Bon, le 20 mars, suite à la proclamation parisienne de la Commune, le 18 mars, le club de la Révolution siège en permanence, c'est-à-dire il s'établit définitivement, et il attend les instructions de Toulouse, car en vertu de cette ligue du Sud-Ouest, des 6 mois qui ont précédé, tout le monde pensait que Toulouse prendrait la tête de l'insurrection du Sud-Ouest en tant que capitale politique. Or, à Toulouse, les républicains modérés l'ont emporté et ont réussi à étouffer la révolte dans l'œuf, en quelque sorte. Je vous dirai quelques mots, si j'ai le temps, de Toulouse. Le 23 mars, donc finalement, ce sera Narbonne, dans cette région du Sud-Ouest, qui jouera le rôle que l'on pensait faire jouer par Toulouse. Le 23 mars, ce club de la Révolution réunit encore 1300 personnes et lance un ultimatum. Êtes-vous fidèle à Paris ou à Versailles? Il appelle un de ses membres, le citoyen Dijon. Ce sera l'homme visible de la commune de Narbonne, Dijon. Dijon est un ancien 48art déporté, qui vient de rentrer de déportation. Ils appellent ce citoyen Dijon pour proclamer la commune en union avec Paris. Le 24 mars au soir, la commune proclamée, et on hisse le drapeau rouge. Donc c'est vous dire qu'ils savent où ils veulent aller et que les positions à ce moment-là des futurs insurgés sont très précises. Les membres de la commune s'installent à l'hôtel de ville. Le soir, des patrouilles armées circulent dans la ville, mais elles sont désarmées par l'armée, c'est-à-dire des patrouilles de la garde nationale qui ont réussi à s'armer, circulent dans la ville, mais elles sont désarmées par l'armée qui a encore un petit pouvoir à ce moment-là. La troupe elle-même est divisée et nombre de soldats fraternisent avec les insurgés et fréquentent le club de la Révolution. C'est là que ça commence à se nouer la spécificité de Narbonne. Les schémas dans les révolutions sont presque tous les mêmes. Le 25 mars, la troupe tente de reprendre l'hôtel de ville. Mal lui en a pris. La foule assaille les soldats. Et dans cette foule, on compte d'innombrables femmes et enfants qui crient, qui entourent les soldats un à un et qui leur crient « crosse en l'air, crosse en l'air ». Et les soldats sont désarmés par la foule et faits prisonniers dans la citadelle de l'hôtel de ville, car l'hôtel de ville de Narbonne ressemble à une citadelle, peut se défendre lui-même comme une place forte. 70 des soldats de la troupe sont passés aux insurgés, quand même, du côté des insurgés. Cette troupe, c'est celle qu'on appelle les 52e de ligne. C'est le nom de leur bataillon. Le lendemain, ces soldats qui sont passés au peuple vont, accompagnés de nombreuses femmes, se rendre dans les casernes pour embrigader leurs camarades aux côtés de la commune. Et ça marche, car 200 des soldats deviennent communards et sont ainsi recrutés à la fin de la journée du 25 mars. La ville est insurgée. Le reste des casernes est bouclé avec interdiction de sortir aux soldats, c'est-à-dire qu'il ne peut plus dans la ville y avoir de conflit armé entre la troupe, donc versaillaise, hein, vous avez compris, et la garde nationale ou le peuple, entre guillemets, en armes, quoique l'expression soit un peu tonitruante. Bon, donc, pour donc la commune triomphe, nous comptons 250 gardes nationaux qui sont armés et 250 soldats aux côtés de la commune, et qui sont eux aussi armés. Et alors, c'est ce phénomène très précis qui fait dire à l'historien Marc César que c'est ça la spécificité de Narbonne. C'est la raison pour laquelle les gens ont retenu la commune de Narbonne plus que la commune de Bordeaux, de Toulouse, de Perpignan, et de nombreuses autres, de Béziers et de nombreuses autres. Bon. Le 25 mars, une toute petite ville à côté de Narbonne, que l'on appelle Coursan, pour ceux qui connaissent, essaye de se soulever en solidarité avec la commune. Le 25 mars au soir, la commune de Narbonne détient 3 otages. Le 26 mars, elle prend la sous-préfecture et neutralise définitivement l'armée. Définitivement, quelques jours. Elle appelle à Toulouse. La commune de Narbonne appelle à la rejoindre, Toulouse, Carcassonne, Béziers, Perpignan et Paris. Elle essaye de maîtriser, ça c'est très important, la commune de Narbonne essaye de maîtriser les télégraphes, la gare, qui sont deux espaces stratégiques pour la totalité des communes de France, parce que c'est là que se gèrent les communications avec l'extérieur. La gare, vous avez compris, avec l'exemple de Périgueux, pourquoi la gare achemine les troupes contre la commune de Paris et les télégraphes qui évidemment transmettent les informations. Le 27, les villes environnantes envoient des délégués à Narbonne pour recevoir les instructions de la commune de Narbonne. À Perpignan, ce même 27 mars, il y a une tentative insurrectionnelle en faveur de la commune qui échoue de justesse. Le 29, la commune de Narbonne s'apprête à marcher sur Perpignan pour forcer à établir la commune. Le 30, les nouvelles troupes arrivent à Narbonne. De nombreux villages des environs soutiennent la commune de Narbonne et de Paris. Le 31 mars, la troupe mate la commune. Les arrestations abondent. La ville est occupée militairement, mais le sang n'a pas coulé. Le 15 avril, 25 civils sont en prison, 203 soldats sont arrêtés et seront jugés en conseil militaire. S'il me reste du temps, je peux vous dire quelques mots supplémentaires. Oui ? Alors, pour élargir notre perception du mouvement communaliste, je voudrais vous signaler que nous avons eu en septembre 1870 en Martinique du Sud une république d'anciens esclaves en quête d'émancipation. À Alger, nous avons eu ce que l'on appelle une république des colons, qui a eu le grand tort de ne pas s'intéresser aux, entre guillemets, indigènes. Elle est restée, mais vous savez que les colons algériens étaient souvent des déportés des insurrections de 1848 et 1851. Il y avait donc en Algérie tout un mouvement pro-républicain réellement actif. Le 2 février 1871, après l'annonce de la capitulation de Paris, provisoirement la commune d'Alger révolutionnaire décrète qu'elle dirige l'Algérie, avec un conseil de gouvernement qui s'appelle le comité de salut public. Mais, je le répète une deuxième fois, il n'y a pas d'Algériens de souche dans cette commune. C'est pourquoi on l'appelle la commune des colons. Et enfin, encore exemple, je peux vous en donner tant que vous me laisserez la parole, à Thiers. Thiers, vous savez, est un bastion. Alors là, on arrive vraiment dans l'histoire ouvrière. Thiers est un bastion prolétaire, avec une conscience prolétaire. Donc, c'est la ville des Couteliers, le mouvement des Couteliers de Thiers, qui a donné beaucoup de militants anarchistes, notamment. Alors Thiers, là par contre, je connais, Thiers, c'est pas Monsieur Thiers, c'est la ville de Thiers. Je connais le nombre d'habitants, c'est une ville de 16 000 habitants. À Thiers, on hisse le drapeau rouge pour le 4 septembre. Il y a une tentative d'insurrection le 30 avril. La mairie est occupée par la foule. Pour quelques heures, la ville appartient aux ouvriers. Au nom d'eux, nous voulons soutenir nos frères de Paris. Donc il faut que tout cela vous ôte définitivement l'idée d'une commune de Paris qui serait complètement isolée, la proie uniquement des ruraux, dans une France qui serait géographiquement... C'est absolument pas le cas. Il se trouve que nous connaissons des bribes d'histoire sociale de ailleurs en France, mais très peu dans les villages. Mais moi, je suis prête à parier sur le fait qu'il y a des villages qui plantent leurs arbres de la liberté. Ça, il faut vraiment pas avoir une représentation manichéiste des choses.
Merci, merci Claire. Nous avons 7-8 minutes avant d'embrayer sur la commune et les femmes présentées par Hélène Hernandez. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des remarques ? Oui.
Merci. Je me permets de compléter votre brillant exposé par quelques informations sur le sort des 19, je crois, condamnés aux travaux forcés de la commune de Narbonne. Oui. Car ce sont les premiers qui ont foulé le sol néo-calédonien dès mars 1872. Ils avaient donc quitté la France, Toulon, en novembre. Et avec ces 19 Narbonnais, il y avait seulement 2 communards parisiens que l'on connaît, qui sont Trinquet et Urbain. Ah oui, et donc, voilà les premiers communards qui ont débarqué sur le sol néo-calédonien et qui ont été envoyés au bagne, car la répression a été particulièrement sévère pour les Narbonnais.
Oui, un complément, par rapport, je suis très content de l'exposer, et, parce que bon, ça montre l'étendue géographique d'une révolte, des gens qui ne se portent pas à un certain nombre de choses. Et bon, il n'y a pas eu de coordination. Je voulais dire aussi qu'il ne faut pas penser que la commune est limitée géographiquement, puisque ça, mais elle n'est pas limitée dans le temps. On en parle aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Je voudrais prendre un exemple très rapide, puisqu'on a parlé de la région du Limousin. Bon. Il se trouve que dans les zones de la Creuse, je suis originel, beaucoup de gens étaient des paysans pauvres, donc allaient travailler 6 mois à Paris. D'accord. D'où les maçons de la Creuse, peut-être certains ont entendu, puisqu'ils étaient dans le bâtiment, qui était quelque chose à l'époque assez important. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont morts suite à la commune, mais il y en a qui sont revenus au pays. Et je ne vais pas détailler, mais les paysans de la Creuse, quand on remonte un peu, il y a encore des traces. Ils sont anti-militaristes, anticléricaux, ont soutenu, ont bloqué des trains, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, etc. Bon, je ne développe pas, mais je te rejoins tout à fait en disant que, même si c'est très important, c'est passé à Paris, mais il s'est passé énormément de choses dans des zones semi-rurales, semi-rurales, dans d'autres pays, etc. Donc c'est pour prolonger un peu l'intervention que tu as faite.
Voilà. D'ailleurs, en ce qui concerne l'antimilitarisme de la Creuse, c'est à Gensioux que nous avons un des rares monuments maudits soit la guerre.
Oui, absolument.
N'est-ce pas ?
Absolument.
Juste une remarque que tu avais faite à propos du patriotisme. Patriotisme est mal vu. Je vais donner un exemple à partir de l'Argentine. À partir de 2001, la grande crise, la prise de conscience des piqueteros, qui est même antérieure, mais toutes les manifestations en Argentine étaient, je pense encore maintenant, de 2001 au moins à 2010, ce que je connais, toujours avec le drapeau argentin. Hein, les piqueteros ont toujours le drapeau argentin, ce qui veut dire dans leur tête que eux aussi, il n'y a pas que les latifondistes, les grands propriétaires fonciers qui représentent le pays. Il n'y a pas que ceux qui exportent la viande qui sont des capitalistes, qui sont argentins. Eux, à la base, ils sont aussi argentins et c'est eux qui sont la chair à canon, si on peut dire, ceux qui meurent d'accidents du travail et qui sont les plus pauvres et qui sont, disons, à la fois les Argentins créoles, c'est-à-dire fils d'Européens, et qui sont les Argentins Guarani, Mapuche, et également dans la Cordillère, qui sont Quechua. Tout le monde est Argentin, mais il y en a qui meurent de faim à 8 ans, à 5 ans, et d'autres qui meurent d'obésité, d'autres gosses, dans les grandes villes à 18 ans. Bon, c'est tout.
Merci.
Ah, une autre question
oui.
Ou un commentaire ?
Oui.
Il est allumé, il n'y a pas de problème. Tu veux parler ? Oui. Il y a eu un camp près du Mans où il y a eu des soldats qui ont été mis là-dedans et ils sont morts de faim, de froid, de maladie. Et il y a une ville en Bretagne, Morlaix, où il y a trois guerres qui sont représentées. 1870, 1918 et 1939-40, voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Merci. La jeune fille, là. Et ensuite, ce sera à Hélène.
Ça sera à Hélène, voilà, la dernière question.
Je vais me permettre un parallèle qui peut être un peu discutable et maladroit, mais je trouve que c'est assez intéressant de constater. Le mouvement des Gilets jaunes a eu tendance à beaucoup se réapproprier l'imaginaire de la Commune de Paris en montant au Sacré-Cœur, etc. Et pour autant, il y avait un peu comme pendant la Commune cette réappropriation du drapeau au tricolore, même si ce n'était pas le cas des fédérés, mais de la Marseillaise, où ils scandaient révolution tout en chantant la Marseillaise, tout en allant se frotter aux policiers. Et c'est intéressant parce que même s'il n'y a pas d'occupation, il y a vraiment ce phénomène des gens de la province qui montent sur Paris, qui est un lieu de pouvoir centralisé pour faire entendre leurs revendications et qui était presque à un cheveu de destituer le pouvoir, quoi.
Bon,
une dernière question.
Allez, une dernière et ensuite c'est à Hélène.
Voilà.
Je voulais juste te répondre du coup sur ce que tu viens de dire. Le problème, c'est que je pense que, au contraire de réappropriation, ce qui s'est passé dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'en fait, il y a plutôt eu désappropriation de notre passé révolutionnaire et du coup à partir du cycle révolutionnaire de fin 1800 à 1900. Ce qui s'est passé, c'est que du coup entre temps, enfin avec les années 80, etc., les Gilets jaunes du coup n'ont plus du tout de souvenir de cette période. Et le seul souvenir de révolution qui restait, c'était celui de 89. Et c'est pour ça, du coup, qu'il scandait la Marseillaise sans en connaître pour autant les paroles. Ce qui se passe, par contre, c'est qu'à la Commune, il y avait le souvenir qui était encore très présent de cette période. Et c'était pas une réappropriation d'un mouvement, comment dire, où on en connaissait très peu, à part dans les livres d'histoire de troisième, mais vraiment un souvenir qui était encore présent de la tournure qu'on aurait voulu que ça prenne et qui a malheureusement mal fini.
Très bien, merci.